puisqu'il y a eu trois volumes de Marc Alizart sur la question de la
Oui, c'est
théorie de
vrai.
l'art. Mais aujourd'hui, on va parler de fictionnel et de fictif. C'est la thématique de ce dialogue qui est aussi le titre, le fictionnel et le fictif, de l'ouvrage d'Éric Clémens qui est à ma droite et qui dialoguera donc ce soir avec Christian Prigent. Vous connaissez bien tous les deux depuis longtemps, depuis très longtemps, parce que vous êtes liés à une aventure littéraire et éditoriale importante, qui est la revue TXT, revue créée au début des années 70, voire même à la fin des années 60, qui s'est arrêtée après 25 ans, mais qui a repris récemment avec les auteurs, un certain nombre des auteurs de la première période, toujours présent, même s'ils sont plus au poste de pilotage de cette revue. Donc on aura l'occasion de parler de cette aventure éditoriale et de revenir en particulier sur des textes d'Éric Clémens publiés dans la revue qui ont fait l'objet d'un volume texte au pluriel choisi entre autres par Christian Prigent et chez le même éditeur, donc le fictionnel et le fictif. Je signale aussi puisque j'en suis aux présentations, donc Christian Prigent est poète, essayiste, critique littéraire également. Son dernier ouvrage paru, comme beaucoup des précédents aux éditions POL, celui-ci s'appelle Chino au jardin. Il a paru au printemps dernier. Voilà. Et le livre d'Éric Clémens, on va commencer par ce livre et on va même commencer par le début, c'est-à-dire non pas la première page, mais même la couverture du livre, en fait. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Le fictionnel et le fictif. Une souris et un mulot, aurait dit Jacques Chirac. Ou deux souris, je ne sais pas comment.
Voilà, oui, c'est ça. Mais ça, l'ironie,
Si, peut-être faut prendre le micro.
Oui, pardon. L'ironie, c'était de mettre deux souris, en fait, sur la couverture. Pourquoi? Ben, pour indiquer précisément toute l'ambivalence du langage et tous les abîmes qui s'ouvraient quand il s'agit de la question du langage. Vous connaissez tous le tableau de Magritte, ceci n'est pas une pipe. Et donc, voilà, ceci n'est pas une souris, vous voyez. Aucun des deux, puisque, bien entendu, il s'agit chaque fois d'une image de souris ou d'une image de l'appareil qu'on appelle souris aussi et qui sert à ordinateur. Donc, en fait, pour moi, les deux représentations témoignent du fictionnel, du fictionnel qui n'est pas le fictif de tout ce qui est représenté, de tout ce qui est dans le langage. Le langage, toujours, nous introduit à la réalité de façon que j'appelle fictionnelle, qui n'est pas fictif, parce que, effectivement, ce sont des objets qui renvoient à une certaine réalité. Mais qui ne sont pas cette réalité et qui, du fait même, prêtent à équivoque. Sans compter que le mot souris, même si on le réserve au phénomène de l'animal, peut être vu de façon multiple par des gens complètement différents. Je veux dire, la souris apprivoisée par un enfant, la souris pour le biologiste, la souris pour un physicien, ouais, elle devient encore qu'un ensemble d'atomes, etc. Donc, tout le phénomène même de la souris est lui-même une construction, dans la façon dont nous le percevons, une construction que j'appelle fictionnelle. Et c'est ça le point central qui m'a fait écrire ce livre, non pas pour montrer l'opposition entre le fictif et le fictionnel, mais pour montrer justement leur parenté dangereuse. Comment ce qu'on appelle la fiction au sens habituel, que j'appelle le fictif, est toujours une reprise du fictionnel qui lui-même est déjà pris dans le fictif. Vous voyez, il y a une boucle là-dedans qui nous entraîne et dont nous n'avons pas assez conscience, dont notre par laquelle notre lucidité est souvent en défaut, et qui est celle même du langage, en fait. Et qui fait que toutes les discussions qu'on a actuellement sur les fake news et autres choses, évidemment, s'engouffrent dans cet équivoque. Hein. Le fait que tout phénomène est construit, que bien entendu nous sommes dans le réel. Vous savez peut-être que la nouvelle mode philosophique, c'est le réalisme. Alors on nous dit la question du réel ne se pose pas, nous sommes dans le réel. Évidemment qu'on est dans le réel. Sauf qu'on est dans le réel avec le langage et avec nos langages. Il n'y a pas que le langage verbal, d'ailleurs. Il y a tout le langage de nos habitudes sensitives, de nos habitudes musicales, de nos habitudes picturales qui transforment les choses. Il y a dans le livre des exemples assez savoureux sur cette façon de percevoir les choses qui paraissent réelles, mais qui sont tout de suite transformées par nos habitudes perceptives. Il y a un texte que je vous recommande d'Oscar Wilde sur les brouillards de Londres, qui commence par ceci: nous n'avons jamais vu les brouillards de Londres. Vous voyez ? Et donc c'est ça, effectivement, on n'a jamais vu les brouillards de Londres en soi. On les voit toujours à travers des perceptions qui sont déjà transformées. Et il dit, on les a déjà regardées, mais on ne les a jamais vues. On les a vues que depuis que Turner nous les a montrées dans ses tableaux. Oui. Et c'est à peu près. Mais c'est pas que ça. C'est le fauteuil devant nous. Il est aussi fictionnel d'une certaine façon. Donc pas du tout au sens d'irréel. Il est bien entendu dans le réel, mais au sens qu'il est une construction. Et le fauteuil, comme vous le savez, sur lequel nous asseyons aujourd'hui, il est tout à fait différent du fauteuil dans lequel on se serait assis en 1920, même dans une salle de cinéma, ou a fortiori à l'époque où il n'y avait pas de fauteuil, il n'y aurait pas de fauteuil justement dans les pièces de Shakespeare, quand Shakespeare jouait ses pièces et où on déambulait autour de lui. Donc voilà, il y avait une absence de fauteuil, puis il y a eu des fauteuils d'un certain type, puis il y en a d'autres. En fait, la perception change tout le temps, et c'est ça le fictionnel. Et donc, ça montre bien que notre vigilance à l'égard des faux faits, justement, elle doit être d'autant plus grande que les faux faits renvoient à des faits qui, eux, ne sont pas faux, mais sont déjà construits.
Christian Prigent, vous adoptez ce distinguo que propose Éric Clémence entre le fictionnel et le fictif. Vous partagez cette manière de regarder le réel, c'est-à-dire cette manière consciente, réflexive, au fond, de reconnaître le fait que ce réel, on ne peut pas l'approcher directement, qu'on l'approche toujours à travers un langage ou des langages, à travers des perceptions. C'est une perspective très husserlienne ou phénoménologique, on va dire, au sens large du terme.
Le problème entre Eric et moi, c'est qu'on est d'accord sur à peu près...
Je ne vais pas essayer de vous mettre en désaccord.
Non, ce n'est pas du tout le problème. Avant d'essayer de répondre à ce que vous me demandez, je voudrais juste faire une remarque par rapport à ce que Eric vient de dire en reprenant les deux images de la couverture. Là. Parce que s'il y a d'une part... Cette image de souris qui est l'image de l'animal, ça d'une part. Et puis s'il y a d'autre part l'image de cet objet technologique qui est la souris dont on se sert pour faire fonctionner un ordinateur. On est, si on ramène la question à un peu de platitude linguistique, face à la question telle que Eric l'a formulée, à savoir toute... forme de la réalité est pour nous une construction de langage, mais on est aussi devant la fameuse question du sens propre opposé au sens ou à la multiplicité, à la nuée des sens figurés que tout sens propre d'à peu près tout mot est capable de produire. Et là, évidemment, la conception banale, normale, j'allais dire, suppose qu'il y a un sens propre, donc un sens qui serait assigné et désigné comme tel en tant que propre, parce qu'il serait la représentation qui serait à l'origine de la multiplicité des sens qui vont ensuite apparaître. Il y aurait ce sens propre d'un côté, donc il serait identifié à une origine. Comme un sens premier, qui serait à la fois l'origine, le fondement et la vérité ultime de la multiplicité ensuite des significations qui apparaissent. Or, ce que l'expérience que nous décrit et que nous analyse Eric, c'est que ce fondement, cette origine, cette vérité ultime n'existe pas, en tout cas pas en tant qu'inscrite et identifiable à un réel quelconque. Voilà. Et moi, je trouve ça intéressant, quand on vient de la littérature et que la littérature vous intéresse, que si sens propre il y a, il n'est assignable à aucune des significations que le lexique, que le dictionnaire nous propose, mais il n'est assignable qu'au mouvement lui-même qui nous fait passer, qui fait la langue dans son histoire et dans sa synchronie aussi, passer d'un sens à un autre. Voilà. Et comme je suis un peu curieux, je me suis intéressé, par exemple, à l'étymone du mot « souris ». Voilà. Et c'est une chose assez intéressante parce que c'est, comme souvent, un mot latin, mais un mot latin comme ça, qui était un petit peu savant dans l'usage du latin classique, et qui ne réapparaît dans le français que vers le XIe siècle, enfin, peu importe la date, mais qui réapparaît dans le français après un silence donc de dix siècles à peu près, avec comme sens donc propre le sens de la partie charnue qui se trouve contre l'os du gigot, c'est-à-dire ce qu'a priori on considérerait comme un sens figuré. Ouais. Dérivé, ce qui fait que, enfin, ça renverse complètement la perspective. Et puis, je vais en rester là après sur ce point, mais bon, qui fait sens aussi par rapport à ce que Eric essayait de dire. L'autre mot latin pour dire souris, c'était mousse, ouais. Mousse Maurice, ce qui donne le mouse anglais et le mouse allemand. Alors, il y a une petite épigramme de Martial où une dame qui essaie de provoquer des émotions à son monsieur, l'appelle mon rat, mousse. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, mousse est à la fois une désignation affectueuse pour un monsieur, avec allusion, évidemment, à son sexe, à son pénis, et donc à un sens masculin. Mais à côté, on dira, par exemple, d'une jolie femme que c'est... Enfin, on disait une souris. Voilà. Et moi, je trouve ça aussi intéressant parce que même la catégorisation générique, la différence sexuelle, s'efface dans le mouvement même de la prolifération des significations figurées, figurables et figurantes, surtout, c'est-à-dire créatrices de monde, qui apparaissent à partir d'un noyau jamais stabilisé, jamais situable au fin fond de l'histoire, puisque un étymone est toujours l'étymone d'un autre étymone, et ainsi de suite, et qu'au bout du compte, il y a toujours, non pas un savoir, mais un non-savoir, au moins dans le cadre historique. Voilà. Et c'est aussi pour cela que, toute manipulation du langage, toute réinvention de langage, est une opération de fiction, mais au sens une opération de fabrication, de fondation, de réinvention de monde. Alors pour un écrivain, évidemment, c'est... Ça fait sens, quoi, voilà.
Et ce pouvoir de figuration, de figurable dont parle Christian Prigent est très important. Cette dimension performative, au fond, de ces mots qui font exister véritablement, ouais. Non pas le réel parce qu'il existe, hein, mais notre accès à lui en quelque sorte.
Voilà, il n'y a pas d'origine à l'accès. C'est-à-dire que, bien sûr, on est dans le réel, mais on est dedans, justement. Le fait qu'on est dedans, ça veut dire que personne ne peut appréhender la totalité du réel. Hein, même dans des romans, je crois que c'était Michel Buteur avait essayé ça, d'écrire une heure de cours. Évidemment, il est loin d'avoir épuisé l'heure de cours, même en 350 pages ou 250 pages. Donc, effectivement, il n'y a pas de totalité du réel qui est saisissable. Et donc, ce que nous faisons, c'est toujours fragmenter le réel. Pourquoi ? Parce que nous avons le langage. Le langage, qu'est-ce qu'il fait ? Il introduit une division. Et donc, tout commence par la division. Donc, il n'y a pas d'origine parce que tout est toujours déjà divisé. L'enfant, très vite, on le divise de régulière, de d'apprentissage de propreté, et bien entendu de mots, de sons qui sont plus ou moins accentués, justement selon les moments. Et donc cette division, c'est l'apprentissage même de notre rapport au réel, qui en devient une réalité. Mais une réalité, c'est qu'une fragmentation du réel par le fictionnel. C'est vraiment ça. C'est un fragment du réel qui a été distordu, qui a été divisé par le langage, par les langages, par les apprentissages multiples qui l'accompagnent, et qui alors forme un monde, mais qui est toujours partiel, qui est toujours fragmenté, qui n'est qu'un fragment de réel. Donc nous sommes dans le réel, mais nous sommes dans un réel fragmenté, distordu par le langage et fragmenté. Et d'où cette dérive, évidemment, que tu expliques très bien, qui peut aller très loin alors, mais qui commence dès le début. Donc il n'y a pas une origine ponctuelle des choses ou des autres devant nous. Il y a toujours cette distorsion dès qu'on voit quelqu'un. Bien entendu, tous nos préjugés, nos habitudes de pensée, etc., nos goûts interfèrent dans la vision même qu'on a de cette personne. Elle n'est jamais vue dans son réel. Qu'est-ce que ce serait son réel, d'ailleurs, hein? Si alors le réel de l'être humain, c'est ce qui est marqué par, entre autres, l'inconscient, par les pulsions, par le désir, le rapport à la mort, enfin, la sexualité, etc. Tout ça, c'est imperceptible quand je vois quelqu'un. Et donc, je le remplace. Bien entendu, je vais essayer de l'approcher. Mais ce réel du sujet humain qui est en face de moi, mais je le remplace d'emblée par une grille qui est la grille que, involontairement, la grille fictionnelle, le langage m'a, et mon expérience du langage et tous les sédiments de cette expérience ont mis entre lui et moi ou entre les choses et moi.
Alors, c'est sans doute ma proximité avec les sciences sociales qui me fait penser ça, mais. Il y a une dimension relationnelle très forte dans l'établissement de ces grilles. C'est-à-dire que si on a besoin de ces significations, c'est aussi pour les partager, pour les échanger. Elles se construisent dans des interactions à travers l'échange de ce que Alfred Schütz appelait des typifications réciproques. Ah, oui. Ça, c'est cette dimension sociale de la construction à travers le langage, ou les langages, parce que ça peut être aussi des excises corporelles. Ou
des images.
Est très importante. Quelle part vous lui faites à cette dimension sociale, à cette dimension d'interaction de l'appréhension du réel?
Les langages sociaux font partie de ces couches de langage qui m'empêchent de saisir un phénomène brut qui n'existe pas finalement. Qui n'existe que pris dans une totalité qui est insaisissable. Je ferai tout de même remarquer une chose. Parce qu'on a peut-être, certains d'entre vous ont l'objection des sciences en tête, mais n'oublions pas que la science elle-même est un découpage du réel, hein, et que quand on va très loin dans ce découpage, comme vous le savez dans la physique aujourd'hui, que ce soit la physique quantique ou l'astrophysique, on se perd dans des apories complètes, hein. Donc, par exemple, les particules, c'est pas des particules, justement. Les atomes, c'est pas des petits ronds avec des trucs qui gravitent autour. Ça, ce sont des images que les physiciens nous ont données pour qu'on n'ait pas trop l'air tout à fait imbécile devant ce qu'ils découvrent, mais qui, pour eux, n'est pas plus compréhensible de façon directe, évidemment, qui passe par cette mathématisation dont une des énigmes est qu'elle fonctionne, d'ailleurs. Hein, une des énigmes pour les... Et de même pour l'astrophysique, enfin... C'est sympa le Big Bang, mais enfin, c'est pas n'importe quoi qui éclate au Big Bang. Donc, qu'est-ce qu'il y avait avant? Ben, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que c'est sympa l'univers en expansion? Mais dans quoi il est en expansion? Comment est-ce que le tout peut être en expansion au-delà de lui-même? Enfin, on tourne tout de suite dans des apories. C'est pas pour rien, hein? C'est pas pour rien. C'est nos béquilles de langage, même mathématiques, qui nous arrêtent, et donc, a fortiori, les langages sociaux, qui sont des interactions à n'en plus finir, qui sont des temps vraiment de conflits interactifs perpétuels. La division, qui est essentielle à notre perception du monde et qui est à l'origine de notre origine, donc qui est avant toute origine, qui est la marque même de l'origine, on ne commence que dans la division. Je ne suis un bébé que parce que je commence à me diviser de ma mère, etc., etc., à me séparer, bon, et mille façons, et puis tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Cette division, elle est la base de la démocratie, évidemment. Donc c'est aussi de ce côté-là. Qu'est-ce que c'est un régime démocratique? C'est un régime qui reconnaît que la division est inéluctable dans une société. et pas qu'il y a une unité possible, etc., une unification, une réalité sociale. Et donc le conflit est la forme même que prend la division dans la société, et c'est sa seule origine. C'est pas une je ne sais quel paradis initial ou passé ancestral ou des choses comme ça. Donc ce principe même de la distorsion, de la division, de la séparation, c'est le fait même du langage. Et entre parenthèses, le mot « fait », il y a un philosophe du XVIIIe siècle, Vico, Giambattista Vico, qui a donné l'étymologie et qui est juste. Le mot « fait », il vient du verbe « facere », « faire » au supin, qui fait « factum ». Donc le fait est fait, il est fabriqué. Il n'y a pas de fait qui n'est pas fait. Enfin, on peut dire ça plus calmement, parce que sinon, les positivistes vont me tomber sur le crâne, mais en disant tout de même, qui nierait, quel journaliste nierait, quel sociologue nierait que tout fait est dans un contexte et dépend d'une interprétation. Je ne reçois pas un fait brut comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, un fait brut? Je veux dire, je vois des gens qui marchent dans la rue avec des pancartes, ça ne veut rien dire, ça. Donc, il faut que ce soit mis dans un contexte, évidemment. Pourquoi ils marchent, qu'est-ce qu'ils ont écrit sur leur pancarte, etc. Enfin, n'importe quel fait social, il est un fait qui est construit au sens où il est mis dans un contexte et où il est interprété.
Moi, je pense que la plupart, voire la quasi-totalité des sociologues souscrivent à ce que vous dites.
Oui, oui.
En revanche, je crois que très peu de journalistes souscrivent à ce que vous dites.
Oui.
C'est-à-dire que je pense que ils sont à peu près persuadés de pouvoir, en sortant faire un reportage, ramasser quelques faits sur le trottoir. Ce qui est un problème dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, devant lutter face aux fake news dont vous parliez tout à l'heure, parce que si on n'a pas la bonne théorie pour savoir à quoi on a affaire quand on parle de fake news, on est un peu désarmé pour lutter. Mais peut-être on y reviendra. Mais Christian Prigent, cette dimension de la... Eric Clemens disait que la dimension interactive du langage, entre autres choses, générait du conflit, et que ce conflit était quelque chose de positif. Ça génère aussi, me semble-t-il, quand même l'inverse, c'est-à-dire des formes de cristallisation, d'institutionnalisation. C'est ça aussi qui permet de fixer, au moins temporairement, le sens, ce sur quoi on s'accorde pour désigner cet appareil qui permet de déplacer un curseur sur un écran d'ordinateur avec le mot « souris » jusqu'au jour où ce mot sera remplacé probablement par un autre, mais parce que rien n'est stable. Mais on a là aussi besoin de stabilité relative ou temporelle, au moins.
Ça, c'est indéniable, effectivement, mais comment dire les choses, ce qui comble le besoin dont vous parlez, c'est-à-dire les formes de la construction représentative sociale qu'on peut appeler la réalité, c'est-à-dire la réalité du monde que nous avons les uns et les autres entre nous en partage, voilà, dans lequel nous nous reconnaissons, par les outillages de savoir ou d'interprétation du monde duquel nous nous orientons d'une façon à peu près stabilisée, supportable et plausible dans la réalité et dans les rapports que nous entretenons les uns avec les autres. Bon, cette construction-là, c'est ce qui fait qu'une société, quelle qu'elle soit, fait corps et coagule et consiste, est habitable, vivable et permet à l'échange entre les êtres humains de se passer bien ou mal, souvent plus mal que bien, mais en tout cas d'avoir au sens propre lieu, d'avoir un lieu commun. Voilà. Mais en même temps, la façon qu'a cette construction de rendre compte des expériences qui sont subjectivement les nôtres, hein, au jour le jour de notre existence, est aussi, ça c'est l'expérience que fait la littérature, selon moi, hein, est aussi une façon de, comment dire, de nous faire éprouver comme violemment étrangers à ce que profondément nous ressentons, la construction verbale qu'on nous propose comme étant la représentation juste de la réalité que nous vivons. Voilà. Quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui fait œuvre d'art, plus généralement, mais pas seulement quelqu'un qui écrit, pas seulement qui fait œuvre d'art, quelqu'un simplement qui éprouve le réel du temps dans lequel il vit, sauf que pour certains, cette sensation-là produit une pulsion d'action sur les moyens de représentation, mais à l'origine, la sensation est partagée par tous. Bon, et tous éprouvent la violence d'une différence entre la manière dont le monde effectivement les affecte, tous autant qu'ils sont, et chacun en tant qu'il est différent de l'autre. Voilà. La violence de la différence entre ça et les modes de représentation sociale dont je parlais à l'instant, auxquels forcément il adhère, sauf à n'être que du côté de la folie ou de la solitude absolue. Mais la conscience qu'il a, c'est celle de cette différence. Et pour moi, le besoin de littérature, pas la littérature et pas les littératures, mais le besoin de littérature, il naît de la conscience violente qui est à la fois d'ailleurs... jouissive aussi, hein, parce que c'est aussi le sens d'une absence d'aliénation à la communauté des discours. Voilà. Bon, mais qui est aussi douloureuse, parce que c'est aussi le sens d'une différence et d'une foncière séparation d'avec ce que les discours de la communauté me proposent. Voilà. Bon, quand Rimbaud dit, vous savez, les poètes de ma génération, ils ont un hors texte. Pour la plupart, c'est Rimbaud, avec quelques petites choses de Mallarmé autour, mais voilà. Bon, il y a une triplette philosophique de Rimbaud, c'est le fameux « Nous ne sommes pas au monde, la vraie vie est ailleurs, je est un autre ». Voilà. Mais si je prends le premier élément de cette triplette, la déclaration de Rimbaud comme quoi nous, lui, donc, ne sommes pas au monde, s'entend à la fois « Nous ne sommes pas au monde », ça veut dire « Nous ne sommes pas dans le monde » et « Au monde, nous n'appartenons pas ». Bon, mais ça ne suppose évidemment pas qu'il y ait un autre monde. Donc quel est ce monde auquel celui qui se lance dans une aventure de poésie déclare ne pas appartenir? Quel est ce monde auquel il déclare ne pas être? Bon, sinon justement, la construction que tout à l'heure, qu'Éric décrivait, que j'essayais de décrire en répondant à votre question, qu'on appelle réalité, et dont nous avons subjectivement la conscience qu'elle n'est pas notre monde, sans que nous puissions pour autant... Enfin, ça s'est fait dans l'histoire de rêver d'un autre monde et de penser qu'il y en avait un autre. Mais si on est un peu posé, hein, un peu raisonnable, sans que pour autant nous puissions nous imaginer vivant dans et d'un autre monde.
Ça renvoie à la question du rapport, du coup, de la littérature et de la spécificité peut-être de son rapport au langage par rapport à d'autres. Mode de connaissance. Vous parliez de la science. Et quand j'entendais parler de Rimbaud de cette façon, je repensais à la manière dont vous aviez parlé du Big Bang, au fond, parce que qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur mais ça peut être aussi un autre langage que le langage scientifique. Ça peut être typiquement le langage du droit qui vise exactement l'inverse, qui vise à trouver les mots qui nous mettent d'accord pour régler des différends. Des mots qui décrivent suffisamment précisément. Alors, il y a une part d'interprétation qui est toujours considérable, mais qu'on essaye de limiter au maximum quand on produit un texte de droit et qui est un peu, au fond, le contraire de la démarche de littérature, si je la comprends bien.
Ceux qui croient au droit naturel, oui. Ceux qui croient au droit naturel, évidemment, on tombe là. Le mot nature, c'est vraiment le mot piégé par excellence. C'est le mot qui fait semblant qu'on peut connaître le réel, quoi. Dans sa totalité, dans sa temporalité, parce que le réel n'est pas immobile. Hein. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle les brisures du réel et qui essaye un peu de reprendre en langage plus philosophique ce qu'il y a à certains endroits de la physique et de la biologie. Et ce que j'ai vu, c'est que c'est le mot évolution, c'est le mot mobilité, et c'est les brisures dans cette mobilité. Donc jamais rien de saisissable et d'isolable, malgré le fait qu'il faut bien conceptualiser et qu'il faut bien isoler, pour c'est-à-dire construire, pour pouvoir... bon, le vivant, par exemple, il a des cellules, mais il n'y a aucune cellule qui en elle-même, toute seule comme ça, existe. Donc voilà, il est chaque fois pris dans...
En sciences sociales, on dit qu'il faut objectiver les choses.
Il faut objectiver, voilà. Mais objectivation, c'est une fiction. C'est une fiction, elle est fictionnelle, je veux dire. Elle n'est pas fictive. Elle essaye de prendre sur le réel, mais elle est fictionnelle. Donc là, alors par contre, si, par rapport à ce que disait Christian sur la littérature, ce qu'on voit, c'est que la littérature, c'est un langage de langage. Un langage qui reprend le langage avec tout ce côté fictionnel aveugle de notre vie quotidienne qu'on est bien obligé d'avoir. On ne peut pas tout le temps se dire, attention, j'emploie un mot, mais c'était une pure convention, je dois faire... Bon, c'est impossible de vivre comme ça. Mais la littérature, oui, le fait. D'où le fait qu'il y a deux sortes de littérature. Une littérature qui correspond presque à l'éthique du langage, pour moi. Une littérature qui se ferme sur sa prise du langage, sur le langage, en disant « voilà le bon langage, le langage comme il faut, classique, ordonné, un récit qui est clair, qui va vers une concordance et une identité, comme dirait Ricoeur ». Donc voilà. Et ça, c'est le langage qui se ferme sur lui-même, en réalité, et qui retrouve, en devenant langage de langage, la vieille illusion qui est une dénégation du fictionnel. Par contre, le langage de langage qui prend en charge le langage et qui prend en charge à ce moment-là, de façon effectivement beaucoup plus complexe et beaucoup plus repliée sur elle-même, c'est-à-dire c'est un pli sur le pli, hein. Elle révèle le pli ou la distorsion ou la division que je disais entre le réel et moi quand je parle, et elle le redouble, elle le remet en jeu en faisant un récit, mais un récit qui devient une narration, qui n'est plus simplement linéaire, qui, au contraire, n'a pas peur de montrer les équivoques, les disséminations du langage. Et d'où le fait qu'on préfère la littérature qui joue du langage que la littérature qui fait semblant que le langage il doit être effacé, il doit être transparent, il doit avoir la plus grande clarté possible Oui, la transparence, quoi, là, qui doit être communicable, alors que la communication est piégée tout le temps. Hein. On pourrait s'amuser à reprendre le schéma de la communication. Chaque élément du schéma de la communication, émetteur, récepteur, contexte, etc., il se dissémine, il s'éparpille. Hein. L'émetteur, c'est pas quelqu'un de fixe. Le récepteur, c'est pas quelqu'un de fixe. Le véhicule, c'est pas quelqu'un de fixe, etc., etc. Rien n'est fixe, tout se dissémine, et c'est ce que la littérature fait. Il y a alors une phrase là, peut-être que ça paraît incongru, mais il y a un moment où parfois la littérature ou des grands écrivains parviennent à saisir cette prise du langage sur le langage pour en saisir quelque chose du réel. C'est une petite expression que Mallarmé a sortie à propos d'une danseuse et qui met en jeu la négativité du langage, bien entendu, mais une négativité redoublée. Et vous allez voir comment il dit... l'extatique impuissance à disparaître, en parlant de cette danseuse Loïc Fuller, je crois qu'elle s'appelle. Alors c'est une expression absolument géniale, parce que celle-là, évidemment, elle n'est pas facile à saisir du premier coup, mais ce n'est pas par hasard qu'il distord le langage pour montrer ce qu'il y a de réel dans l'extraordinaire de la danseuse, c'est-à-dire qu'il y a comme une extase, une envie de disparaître puisqu'elle est dans le mouvement pur et donc elle ne peut jamais être fixée, mais en même temps une impuissance à disparaître, une double négation. Donc elle devrait disparaître dans son mouvement,
mais elle ne peut pas disparaître, et c'est ce qui fait la force dans cette disparition de cet élan de la danseuse qui est insaisissable. Je trouve cette expression, l'extatique impuissance à disparaître, que c'est d'ailleurs Degui, Michel Degui qui m'a fait découvrir, je la trouve absolument géniale, et elle met bien en jeu le langage de langage. Vous voyez, il y a le langage qui se nie de façon double pour arriver à saisir un fragment de réel, mais là, bien saisi, à mon sens, bien saisi.
C'est parce qu'il travaille uniquement avec les préfixes. Hein. C'est-à-dire, ex, on peut sortir. Un, non, on ne peut pas. Ouais. 10, la déchirure en résulte.
Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Ouais.
Est-ce qu'on peut dire que, à l'intérieur de la littérature, ce que vient de dire Éric Clémin, c'est encore plus vrai de la poésie que d'autres genres?
Déjà, moi, je dirais pas que la poésie est un genre spécialement. Enfin, en tout cas, telle que l'histoire de la poésie s'est déroulée depuis un siècle et demi, on pourrait soutenir qu'elle a peu ou prou cessé d'être un genre en soi, et que les enjeux qui étaient les siens du temps, qu'elle pouvait effectivement être considérée assez clairement, non problématiquement, comme un genre, que ces enjeux-là se sont mis à travailler d'autres modes d'appropriation littéraire du langage, et peut-être à les travailler plus efficacement que ne les travaille le poème lui-même en tant que représentant persistant de la poésie comme genre. Voilà, c'est un peu...
Socialement, dans le monde de l'édition, c'est quand même un genre. En dépit de ce que vous dites,
oui, c'est un genre avec
que partager, et donc c'est peut-être justement un genre qui réunit un certain nombre d'écrivains qui partagent cette ambition ou cette conception du langage, alors que dans d'autres registres, dans d'autres genres, on trouverait des écrivains davantage attirés vers la limpidité dont parlait tout à l'heure Éric Clémence.
Oui, mais les enjeux qu'on est en train d'essayer de cerner un peu, on peut soutenir qu'il travaille peut-être davantage Finnegan's Wake ou Absalon, c'est-à-dire des propositions littéraires dont le cadre générique est quand même la narration, est quand même le récit, et pas la posture d'élocution peu ou prou lyrique qu'on a l'habitude d'assigner à la poésie, et que la vive sensation de cette différence dont j'essayais de parler tout à l'heure entre le monde tel qu'il se trouve configuré pour nous et partageable pour nous, d'une part, et la sensation tout aussi vive qu'il y a à cette configuration un en-deçà ou un au-delà d'impossible ou d'innommable, produit aussi bien l'impossibilité de respirer la phrase de Proust, par exemple. Il faut qu'il y ait un moment où la phrase soit trop longue dans sa fabrication centripète de l'analyse, et que ce trop disent que quelque part il y a un reste d'impossible, il y a un reste d'innommable. Parce que l'innommable, comme son nom l'indique, on ne le nomme pas. Donc on ne peut qu'en faire percevoir il y a, le fait qu'il est là, qu'il y a cette présence. Donc il y a des... Alors si on est un peu léger, on va dire des astuces rhétoriques, mais les astuces rhétoriques sont toujours le plus profond de l'expérience de la littérature. Ce n'est pas un ornement, la figure rhétorique. Ça dit la vérité de l'opération littéraire, c'est-à-dire le fait que le sens ne s'affronte pas frontalement et que c'est dans son détour que la vérité de l'expérience qu'il retrace se dit. Voilà. Bon, dans le cas de Céline, c'est le fait qu'il faut que les trois points répétitifs percent la phrase d'une espèce de vacuité comme ça, irrespirable, qui est aussi là la trace de l'impossible ou la trace de l'innommable, ou bien l'incapacité pour le consul face à sa femme dans le volcan de Lorry de jamais faire venir la question qu'il ait fait à la fois rompre, désirer ne pas rompre quand même, ainsi de suite. Bon, dans Faulkner, c'est le fait que les éléments qui seraient les éléments narratifs décisifs dans un roman banal ne sont jamais effectivement nommés, sauf par une espèce d'allusion qui apparaît de temps en temps et puis qui réapparaît 50 pages plus loin, alors qu'on a oublié le fil narratif qui aurait dû le justifier dans l'ordre d'une fiction au sens classique. Enfin, bon, ainsi de suite, je ne vais pas continuer sur ce terrain. Mais voilà, c'est là que ces expériences se font, qui tiennent compte de ce que les langages tels qu'on les manie sont toujours à la fois en capacité de formation et d'être déformés, voire annulés par les formations qu'ils forment.
Éric Clémence, comment s'articule pour vous ce travail théorique, on peut dire, puisque on parle de théorie belge, et le travail littéraire informé de cette théorie, conscient de cette théorie, loin de la naïveté dont je parlais tout à l'heure à propos des journalistes, par exemple.
Oui, ça se désarticule, ça ne s'articule pas, justement. Toute ma vie, j'ai oscillé entre poésie et philosophie. J'ai fait une petite improvisation là dans qui termine le livre de texte que j'ai publié dans TXT il n'y a pas tellement longtemps, où j'explique qu'il y a une déception de la littérature qui me pousse à la philosophie, et évidemment une déception de la philosophie tout de suite qui me remet dans la littérature. C'est-à-dire que, et cette déception n'est pas accidentelle, c'est pas psychologique. C'est une déceptivité qui correspond à l'expérience même de la philosophie ou de la littérature. La philosophie, quand elle n'est pas paranoïaque, c'est-à-dire presque jamais. Donc, il faut bien lui reconnaître. Mais enfin, c'est son génie en même temps, parce qu'elle fait l'expérience d'aller au bout, le plus au bout possible de la saisie, pas totale, mais en tout cas essentielle, radicale du réel. Et en même temps, elle échoue toujours, et c'est heureusement... parce que sinon, ce serait la vraie paranoïa. Et de même, la littérature, malgré tout. Je citais l'emploi du temps là, de Butor. Il essaye tout de même de trouver une heure de cours rassemblée dans 200 pages ou 250 pages. Et tout écrivain, d'ailleurs, Laurie, dont tu viens de faire allusion, il essaye de dire l'amour impossible entre le consul et sa femme, etc. Donc c'est impossible qu'il essaye malgré tout de se dire, malgré qu'il n'est pas là, et malgré que c'est précisément son échec qui est dit. Et c'est toujours dans cette déceptivité essentielle que s'inscrit la littérature, parce qu'elle exprime la déceptivité essentielle du langage. À laquelle il faut être ouvert, non pas fermé, mais ouvert. Si on s'y ferme, eh ben, on croit que le langage va clore. Tandis que si on reste ouvert, eh bien, on est obligé de s'ouvrir au langage du langage, aussi insupportable que ce soit. Moi, je présente souvent la poésie en disant qu'elle est insupportable. La poésie est insupportable, je veux dire. Ou bien elle est, de façon lyrique comme ça, poseuse, insupportable, quoi. Le poète qui s'imagine qu'il est dans je ne sais quel aura et quel nirvana du langage où il peut déclamer. Enfin, bon, on ne supporte plus ça. Il y a des gens qui sont encore font des illusions là-dessus, mais très, très peu, heureusement. Mais en même temps, la poésie, quand elle travaille le langage comme on essaye de le faire, elle est insupportable parce qu'elle nous met tout le temps face à ce fait qu'on ne peut pas porter le réel. On a une déceptivité qui accompagne notre portage du réel. Le mot porter, comme vous savez, il est au cœur du mot métaphore. Une métaphore, c'est ce qui est un transport. Littéralement, c'est un transport. Donc, on transporte le réel, et c'est évidemment un transport raté en même temps, un transport déçu. Et en même temps, si on l'assume, il ouvre à de nouvelles déportations ou transportation qui, elle, au contraire, s'ouvre à des possibilités nouvelles. Je verrais ça comme ça pour introduire à la poésie. Et c'est ça, la poésie qui nous retient, c'est celle qui fait l'épreuve du langage sans croire qu'un langage de langage pourrait clore. La philosophie serait censée être le langage de tous les langages, plus personne n'y croit. Donc voilà, on voit bien comment le langage de langage, c'est sûrement pas une clôture du langage sur lui-même qui donnerait enfin le hic et nunc du réel. Voilà.
Christian Prigent, comment vous appréhendez ces doubles dimensions dans des allers-retours telles que les décrivait Eric Clémence à l'instant, liées à l'insatisfaction chaque fois, de chaque mode.
En gros, je dirais la même chose que lui. Ce qui nous différencie, enfin, je ne sais pas si c'est, même si c'est ce qui nous différencie, c'est peut-être les bibliothèques originelles que l'un et l'autre on a traversées et qui ont fait que lui a plutôt choisi, plutôt, hein, pas la philo et que j'ai choisi ou été choisi plutôt par la poésie. Mais autrement, ma propre expérience est la même, c'est-à-dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le langage poétique, la question du langage poétique dont on parlait tout à l'heure. Donc, j'essaie d'écrire des choses dans ce domaine-là qui ne me déçoivent pas trop. Les écrivains, je m'aperçois assez vite qu'elles font apparaître des segments de langue ou des modes d'organisation du langage que je n'avais pas préalablement... pratiquer et donc pas penser, et donc l'envie me vient d'essayer de comprendre ce qui s'est passé dans l'opération elle-même, dans l'empirisme de l'opération elle-même, dans la jubilation de l'opération elle-même. Et cet effort de compréhension implique qu'on mobilise un minimum d'outillage théorique. Enfin, pour moi, c'est plutôt l'ordre d'une bricolage, mais bon, un outillage théorique quand même. Bon, voilà. Qui a pour prétention de stabiliser un peu tout ça dans du rationnel. Voilà. Bon. Mais cet effort de stabilisation qui peut prendre de l'ampleur et du temps, puisque ça peut donner des livres, hein, bon, aussi, voilà. Bon. Rencontre à chaque fois, c'est ce que disait Eric, hein, rencontre normalement, évidemment, sans qu'on ait d'ailleurs... bien conscience de cette évidence, en fait, enfin, en tout cas, on n'a pas assez conscience de cette évidence, rencontre ses propres apories, c'est-à-dire débouche sur des constructions systématiques dont l'irréalité par rapport à l'expérience que l'on fait du réel des affects en particulier, bon, éclate. Et à ce moment-là, il faut à nouveau produire des opérations de type littéraire ou de l'aventure ludique du poétique pour mettre à distance la pseudo-cohérence de ces systématiques théoriques. Voilà. Et le jeu roule comme cela sur lui-même. Ça peut remplir une vie d'artiste, en fait.
Il y a un titre d'un livre assez extraordinaire de théorie littéraire de Christian, qui est « Ceux qui merdent ». C'est donc sur les... Et c'est « Ceux qui merdent » explique bien le double jeu, là. Parce que ça vient évidemment de Jarry. C'est Jarry qui mettait un « R » dans « merdre ». Mais ce « R », qu'est-ce qu'il fait ? Ben, précisément, il montre que dire « c'est la merde partout », ben oui, la merde partout, on dit ça tous les jours. Et ça, c'est le langage qui nous endort. Tandis que j'introduis un R en disant c'est la merdre. Ce R, d'abord, met de l'air dans la merde, comme tu l'avais fait remarquer, je crois, dans le livre. Et puis surtout, indique effectivement qu'il s'agit d'ouvrir ce qui nous écrase, quoi. Et donc, même dans la théorie, on peut le faire. Et, enfin, là. Tout le livre d'analyse de Christian de grandes œuvres contemporaines montre très bien comment cet air vient dans la déception, dans la division, dans l'endormissement, dans la communication illusoire, tout ce qu'on veut, dans l'illusion qu'il n'y a pas de fictionnel, etc.
Depuis assez longtemps, moi, j'ai l'impression, j'ai le sentiment que le domaine des arts plastiques, de l'art contemporain, est plus à l'aise pour prendre à son compte un certain nombre de ces questions théoriques qu'une certaine littérature. Je ne dis pas toute la littérature, et certainement pas la poésie dont on parle, mais... Comment vous regardez ça ? Parce qu'on a parlé surtout du langage, des mots. Alors l'art contemporain n'est pas sans relation avec le langage, mais il utilise aussi d'autres langages pour travailler. Comment vous, vous observez ça? Il y a quelques pages dans votre livre sur, sur l'art contemporain.
Oui, ça c'est... j'allais presque dire que c'est une longue histoire. C'est-à-dire qu'il faut, il faut toujours repartir de la préhistoire. Qu'est-ce qui fait que des femmes ou des hommes d'ailleurs, ou des hommes ou des femmes d'ailleurs, on ne sait pas. On dit toujours des hommes descendent dans les cavernes, dans des endroits quasi inaccessibles, très, très malsains, humides, peut-être même menaçants, parce qu'il y a, y a peut-être des animaux qui y traînent, et vont y dessiner sur les murs des figures qui, pour nous, restent énigmatiques, quel que soit l'effort louable des préhistoriens pour les interpréter. Donc il y a quelque chose d'absolument absurde là-dedans. Absurde si on le voit du point de vue du réalisme, justement, hein, du point de vue qu'on touche le réel, etc. C'est pas pour... Donc, il sépare tout d'un coup le monde entre le profane et la caverne, l'invisible, le séparé, qui est une des étymologies possibles du sacré, mais... On ne va pas en faire une religion, je veux dire. Rien ne nous dit que ces gens avaient une religion, ce qui est au sens où nous l'entendons, et sûrement pas avec des dogmes, etc. C'est simplement une impulsion à aller à marquer la séparation, justement. On revient sur la division. Ces hommes-là sentent la division qui est nécessaire au rapport au monde et pour faire un monde. Ils sentent qu'il s'agit de voir la différence entre ce qui est partageable et ce qui est impartageable. Il y a une part d'impartageable, je veux dire, ce qu'on on peut appeler la nature si on veut, mais justement, pas la nature au sens où on va la dominer par la science. Bien sûr qu'il faut le faire, mais comme on sait très bien, on ne va pas venir... Enfin, si on peut le dire, si on veut, sur le problème écologique aujourd'hui, c'est clair que... La Terre, qui n'est pas la nature, qui est la biosphère, avec tout ce qu'elle exige de dimension du vivant, mais aussi de l'atmosphère, et des interactions multiples qu'il y a entre les vivants et l'environnement. La Terre, c'est un petit fragment de nature qui nous échappe. Et là, eux, ils le savent déjà. Ils le savent déjà et ils marquent cette différence. Et cet impartageable leur permet d'ailleurs, probablement, de faire des partitions chez eux, de voir ce qui est partageable entre eux. C'est parce qu'il y a un impartageable qu'il y a peut-être du partageable. En tout cas, cette division entre les deux, c'est profondément énigmatique. Alors, la question est-ce que l'art contemporain ravive ça? Ben, j'ai pas de réponse. Si, enfin, je peux essayer de répondre. C'est clair qu'il y a dans l'art contemporain des gestes qui renoue avec le côté ludique, parce qu'il y a quelque chose de ludique dans ces gestes de la préhistoire, ludique au sens où c'est un jeu gratuit, au sens où ça ne sert pas à la survie, hein. Ça n'est pas utile, c'est pas ça qui... On peut dire que c'est pas ludique de fabriquer un couteau, de fabriquer une lance, etc., parce qu'il faut se battre avec les animaux et que ça sera plus efficace, tout ce qu'on veut. Mais il n'y a pas d'utilité à aller dessiner sur un mur. Donc, effectivement, l'art a gardé ce côté ludique et gratuit, ce côté qui ne sert pas. Et qui, en même temps, aujourd'hui, est arc-bouté non plus sur l'invisible ou sur l'impartageable ou l'énigme de ce qu'on peut appeler la nature de façon approximative et qui a introduit beaucoup de confusion, mais au contraire, devant le monde lui-même. Je pense au ready-made, quoi. Pourquoi est-ce qu'un artiste amène... on va prendre du riz noir de Duchamp, mais n'importe quel, il y a eu plein de ready-made depuis lors, hein, amène un objet banal de la vie quotidienne et le met dans une salle d'exposition. Ouais. Sinon, pour montrer l'illusion de l'utile, quoi. L'absence de lucidité de l'utile. Quand on croit que l'utile couvre tout et que l'économie restreinte, comme dirait Derrida, ou Bataille d'ailleurs, c'est Bataille qui fait la différence entre les deux, que l'économie restreinte
peut rendre compte de l'économie générale, c'est-à-dire de la dépense, de ce qui, chez nous, justement, fait que nous faisons ce qui est inutile, à commencer par le langage. Bien entendu que le langage est inutile, et même il est embarrassant, on en parle depuis une heure. Et en même temps, c'est cet embarras qui fait que nous avons peut-être une lucidité plus grande et une capacité de jouer plus grande que tout autre être vivant. Je ne veux pas venir ici sur la discussion entre les hommes et les animaux, etc. Mais enfin, tout de même, quoi. Il y a cette lucidité plus développée par le langage, ça c'est indéniable, quelles que soient les découvertes qu'on fait aujourd'hui sur l'intelligence et la sensibilité animale, qui sont évidemment essentielles et qu'on avait négligées jusqu'ici. Enfin voilà, c'est un autre aspect que je voulais souligner.
Christian Prigent.
Ouais. Il y a peut-être aussi autre chose, c'est que les arts plastiques, enfin les arts visuels, comme leur nom l'indique, s'adressent à la vue, enfin sont censés proposer à celui qui les regarde un spectacle dont c'est l'apanage du regard de s'en saisir. Voilà. Mais dans l'histoire de l'art, enfin, on va pas traverser l'histoire de l'art comme ça en 3 minutes, mais par rapport à ce que disait Eric, il y a une façon de poser la question de l'excès dans la vue à la vue. Voilà. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose de très étrange dans cette histoire des gens de Lascaux dans Langrande, c'est qu'ils pourraient peindre à l'extérieur, ils pourraient peindre devant des choses qu'ils voient. Or, ils vont peindre dans l'obscurité ou une quasi-obscurité des images qui s'adressent, parce que ce sont des images, des dessins qui s'adressent à la vue, mais ils se placent dans la situation de ne pas voir eux-mêmes ce qu'ils voient et ce qu'ils peignent, et dans la situation aussi de proposer à l'éventuelle vue d'un autre, d'un spectateur, quelque chose que cet autre, ce spectateur, précisément, ne verra pas. Parce que nous, ce que nous voyons à Lascaux, ce n'est pas ce que ces gens-là voyaient. Nous voyons plein feu, comme ça, des espaces plastiques qui ont été aménagés à l'usage des habitudes que nous avons de regarder dans des musées des œuvres d'art. Voilà, voilà. Donc il y a cette question qui est posée à la vue. Or, dans des propositions artistiques beaucoup plus contemporaines, c'est une question qui est constamment posée. C'est-à-dire quand Monet peint les nymphéas, il les peint, il ne peut pas faire autrement, à la distance de son bras. C'est-à-dire il les peint dans un rapport à l'image qu'il propose, qu'il lui interdit à lui de voir l'image tout entière. C'est-à-dire il peint immergé dans l'excès à sa propre vue. Et c'est cet excès qui propose notre vue à nous. C'est-à-dire il nous suggère qu'il y a un réel, enfin, j'appelle ça comme ça par commodité, auquel la stabilité et la mise à distance de la vue ne nous donnent pas accès. Et que le geste d'une œuvre d'art plastique, une peinture ou même une sculpture, n'est pas de nous montrer ce réel, qui par définition n'est pas montrable, mais au moins de nous suggérer qu'il est là en tant que différent de ce qui nous est montré. Voilà. C'est pour ça que Antaille disait que le peintre doit se crever les yeux, et que lui peignait à l'aveuglette sur des toiles dans lesquelles il était enveloppé pour les développer après. Voilà. Et là, je crois que l'expérience des hommes du paléolithique dont Eric parlait est d'une certaine manière la même que Baselitz. Je viens de voir l'exposition Baselitz. Tout le monde ricane, il met les images de la tête en bas. Oui. Bon, c'est peut-être surjoué, c'est peut-être un peu trop démonstratif, mais il ne se contente pas de mettre les images de la tête en bas, il peint ces images la tête en bas, c'est-à-dire il renverse, voilà. Et renversant ce qui était subsumable par la vue, bon, il nous force à voir autre chose que ce que la vue voit, c'est-à-dire à voir le processus de fabrication de la peinture elle-même, la gestualité, la matière peinte, etc. Bon, tout ce qui est le propre, si j'ose dire, c'est-à-dire la cochonnerie, quoi, quand il lui dirait Artaud, de la peinture, c'est-à-dire la vérité de l'opération peinture.
On revient à ce différence entre regarder et voir que
Wilde.
Oscar Wilde mettait en avant à propos de Turner, quoi. On regardait bien sûr depuis des millénaires, enfin des centaines d'années, les brouillards, mais on les avait jamais vus avant que Turner les peigne. Et on les voit autrement aujourd'hui. Et tout le monde a le langage de Turner, qui est un langage de couleurs, de taches et d'indistinct, justement. Enfin, on peut dire que Turner peint l'indistinct. Et ça, c'est très curieux. C'est en peignant l'indistinct qu'il nous fait voir le brouillard. Voilà. Et qu'on fait qu'on ne le regarde plus simplement. Et que donc, on le découvre.
Et pas seulement que Monet le peint à
voilà.
son tour.
Et Monet, c'est la même chose, exactement. C'est ça. Donc, lisez, c'est dans le déclin du mensonge. D'ailleurs, on pourrait venir là-dessus sur la question du mensonge. C'est dans le déclin du mensonge, un petit texte d'Oscar Wilde que ça se trouve. Enfin, je le cite d'ailleurs dans mon livre. Et ça a un piquant énorme. Et d'ailleurs, ça renvoie à la question du mensonge aussi. Là, c'est un autre exemple que je donnais, l'histoire de Fellini, là. Fellini, quand il racontait des souvenirs, ils étaient toujours, toujours différents, à propos du même événement. Et donc, il mentait tout le temps. Mais le problème, c'est... Enfin, pas le problème, justement. La solution, c'est qu'à travers ses mensonges, il cernait beaucoup mieux le phénomène qu'il essayait de décrire, qui était, par exemple, ses émois adolescents, qu'on voit bien dans ses films, hein, ses émois sexuels adolescents, etc., son trouble devant les formes féminines, etc. Mais il racontait ça comme des expériences réelles, et chaque fois, c'était faux. En fait, c'était pas possible que chaque fois, il avait vécu tout ça. Il racontait chaque fois une autre histoire. C'était une infirmière, c'était une matrone, c'était une prostituée, c'était sa mère, etc. Alors, bon, là, c'était quoi ? Ben non, mais justement, c'était rien de tout ça, et c'était tout cela. Mais ça se finit par discerner, voilà. Pas par cerner, mais par discerner. Hein, par cerner en différenciant. Et donc, il n'y avait pas de mensonge. Le mensonge, là, était ouvert au phénomène qui était cet émoi enfantin, trouble, etc., qui autrement n'est disciple que de façon abstraite et vague, comme je viens de le faire.
Au fond, c'est un autre procédé d'objectivation.
Voilà, c'est ça. D'objectivation au sens de fictionnalisation, je préfère ce mot-là. Parce qu'il y a une illusion dans l'objectivation, tandis que dans le fictionnel, on casse l'illusion. Pourquoi je tiens à ce mot de fictionnel à côté du mot de fictif, qui est le mot traditionnel pour la fiction, c'est pour ça. C'est pour garder cette lucidité.
Christian Prigent, vous vouliez lire, je crois, un texte d'Éric Clémence.
Je ne veux pas, au sens mordicus. Ben,
moi, j'aimerais l'entendre, en tout cas.
Non, mais... Voilà. Moi, je le souhaite. On ne l'a pas dit peut-être assez. C'est un cas rare, Éric Clemens. Bon, les philosophes sont des philosophes, les poètes sont des poètes, ça, c'est le courant. Voilà. Mais,
il y a une division.
Oui, il y a une division du travail, presque au sens marxien du terme, et puis une division des langages, enfin, des modes d'appropriation verbale du réel. Et voilà, et il y a assez peu de passages de l'un à l'autre, y compris dans les groupes, les revues par exemple, voilà, et encore moins à l'intérieur d'une même personne, parce que ça suppose de maintenir une espèce de schisme comme ça entre un langage qui est principalement, bien sûr, pas seulement, mais qui est principalement un langage de maîtrise rationnelle, et puis un langage de dépense qui accepte l'irrationnel comme l'un de ses principes, qui ne l'hypostasie pas non plus, mais bon, qui voilà. Et que la même personne puisse tenir les deux bouts de cette ficelle avec une énergie... la quantité d'énergie ne se fait pas sens, mais peu importe, identique dans chacun des deux cas, je trouve que c'est exceptionnel et qu'on n'ira jamais assez voir de ce côté-là. Quoi. Voilà. Ce n'est pas non plus le thème du philosophe artiste au sens Verne, Nietzsche, etc., mais c'est deux modes d'appropriation de la langue. Voilà. Voilà. Oui, je peux... Ce que je m'étais dit, oui. J'ai poussé. Je chausse les binocles. Voilà, si c'est honteux, tu me dis. Voilà, j'ai pas choisi, c'est le premier texte dans l'anthologie dont on parlait il y a quelques instants. Donc voilà, ça date d'une époque où on osait tout, hein, c'est 1970, ça fait un bon demi-siècle. C'était paru dans le numéro 2 de la revue TXT que Eric et moi avons animé pendant quelques années. Et ça s'appelle Magie Rouge. Eric me disait tout à l'heure que c'était le titre d'une pièce de Michel de Gelderode. Ça. Ouais. Simule, or et corps, usure. Simule, ocre, acre, corps, geste, sexe, simulacre. Ocre d'or, corps sans vendredi, vin, venge, ravage, ravin, rage, vagin. Mort à vagin, mort acre, ravi, sœur. Simule, avare, râle et coffre, offre. Corps, spectre, ocre, fort, oc. Usure, l'avare, or, os, sosie, saisie, mort, moins, corps froc, parodique, prosode, froc, coffre-fort. Sort, sorcelle, crêle, cré, mac, querelle, sel, cache. Troc, coche, trou, porte-fort, coche, trou, hon, lard de trou, étrousse, des trous, simulacre, peste, ex, de reste, avare, carne, argent, naval, carnage, sébile, sibylle, hieros, onuma, numus, imor, martel, onde, mord, immordial, or, ordre, tor et de corde, décor, soc. Nt, arge, arche, schis, enrichisse, haute, génissement, génisse, usé, robe, soif, souche, bourse, haute, haute, sac, sache, chair. Et la petite strate théorique. Pour calmer le jeu. Or, d'anciens calculs. L'avare résume le discours honteux de l'argent et du sexe. Cachés tous deux, nécessairement, par ce qu'ils fondent, maître tapis, mais aussi d'un même mouvement par ce qu'ils gardent, l'excès érotique et économique. La mise en réserve avare de l'argent sexe, d'une plus-value tassée, enferme ce qui autrement ouvrirait à l'excès. Et si l'avare met hors circuit ce qui devait se dépenser, il ne ressemble en rien au voleur. Tout ce que l'avare s'approprie vient d'un échange. Il n'a rien pris ou retenu malgré les apparences. Il est même foncièrement honnête, en quoi il est, jusqu'à la fin, l'homme occidental de l'économie restreinte. Arrêtant la circulation, autrement excédentaire, en permettant la fermeture, ne consommant plus que le minimum, par un minimum de gestes, il pousse à bout la logique de ce capital. Il restreint en tout le danger d'un excès. Il ne produit pas, Il est la consommation économique par excellence, dans l'inertie totale d'un interdit de détruire. La magie, elle est cette touffeur suffocante, cette ignoble tornade du mal, tordue comme un torchon des troncs.
Mon texte que j'ai dit, c'est sa lecture. Bon, c'est dit, ce qui me fascine dans ce texte,
c'est que, enfin, j'ai tout de même écrit il y a 50 ans, et j'ai l'impression qu'il est le creuset de tout ce que j'ai écrit après, quoi. Et, y compris d'ailleurs des aberrations, enfin, pas des aberrations, mais de l'expérience échouée du maoïsme qui a suivi. Parce que c'est les années qui ont suivi que. Lui comme moi, d'ailleurs, on a participé à l'extrême-gauche, en expérience douloureuse, mais expérience tout de même, pas du tout à renier au sens où... voilà, c'est tout, pas du tout à renier. Mais à dépasser, évidemment, bon. Mais on sent bien qu'il y a à laisser... D'ailleurs, voilà, quelle est l'erreur politique du maoïste, là ? C'est de croire que ce qu'il a détruit par le langage... il va pouvoir le détruire aussi facilement dans la réalité sociale, où là, évidemment, les interactions sont infiniment plus compliquées. Mais n'empêche que c'est la préparation. Et que ça, à s'en tenir à ça, il y a une fidélité entre Christian et moi. Nous avons une fidélité, non pas dans l'amitié, mais une fidélité à ce qui nous émouvait depuis le début, vous voyez ? Et dont ce texte est, d'une certaine façon, le creuset, ouais.
On entend aussi l'influence très forte de Georges Bataille dans ce texte.
Oui, oui, bien sûr, de Bataille. Il y a un passage d'Artaud qui est repris, qui est transformé. Il y a un passage de Mallarmé, hors d'ancien calcul. Enfin, bon, il y a déjà pas mal de... Oui, oui. Oui, on était déjà peu cultivés, tout même, à l'époque.
Christian Prigent, vous partagez la même analyse sur cette... expérience politique qui a suivi et surtout sur le regard que vous portez aujourd'hui rétrospectivement et sur le lien entre les outils mais votre équipement poétique et philosophique et cette expérience politique.
Ben, l'idée que la pratique de la littérature ne saurait être irresponsable déjà. Alors on peut donner à ce mot responsabilité, on peut le charger de choses très très diverses selon les moments historiques dans lesquels on travaille, mais s'il y a une chose qui m'a toujours mis dans une saine colère, enfin, donné à avancer, c'est tout ce qui relève du narcissisme et de l'irresponsabilité des artistes. Hein. Voilà. Le narcissisme social auquel le statut de créateur d'œuvres d'art pousse à tomber bien souvent. Et puis l'idée que le but poursuivi par une activité d'artiste est la production... d'œuvres dont la dignité viendrait de la qualité esthétique en soi. Voilà. Parce que moi, il m'a toujours semblé, et je crois que c'était un des points aussi qui nous rapprochait, que ce que poursuit une activité d'écrivain ou une activité d'artiste ne se définit pas en termes esthétiques, se définit en termes de vérité ou de fausseté. C'est-à-dire c'est quelque chose de l'ordre de la vérité que l'on cherche quand on écrit, même si et d'abord parce que on sait que la vérité que cherche à toucher une opération artistique n'est pas du même type que la vérité scientifique ou du même type que la vérité factuelle. Mais que l'effort qui fait qu'une œuvre d'art se construit est un effort vers une certaine justesse d'adéquation entre les moyens mobilisés et l'expérience que ces moyens sont censés transmettre. Transmettre, c'est même pas le mot principal. Configurer, fonder. Voilà. Donc, reste cette posture-là, qui est une posture d'ordre éthique, en fait. Un peu prétentieux comme mot, mais bon, quand même, voilà. Voilà. Et puis, le deuxième point, c'est que, comment dire, qui fait une œuvre littéraire s'occupe de langage, qui a l'air d'être une évidence, mais que c'est, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas une évidence si partagée que cela, et que le domaine sur lequel on travaille n'est pas d'abord celui des faits, de la réalité matérielle, enfin des choses de la réalité sociale, mais le domaine sur lequel on travaille est le domaine des représentations, c'est-à-dire le travail de transformation, de refonte, des représentations, voilà, le fictionnel. Et on ne peut là aussi que beaucoup remercier Eric d'être revenu sur cette différence entre le fictif et le fictionnel, dans un contexte d'ailleurs, on parlait du journalisme tout à l'heure, mais c'est vrai aussi pour la littérature, hein, où un certain dédain, un certain mépris, une certaine méfiance se dit aujourd'hui volontiers envers tout ce qui, en littérature, prendrait comme objectif le travail de la langue. On a vite fait de dire que c'est un formalisme, par exemple. Voilà, et formalisme est devenu, dans la bouche de beaucoup, une insulte. Enfin, dans la bouche de ceux qui n'ont aucun souci de la forme, évidemment. Hein, formalisme, c'est une insulte. Voilà. Voilà. Et comme en régime polémique, fictif veut dire fantaisiste, saugrenu, purement imaginaire, voilà, on a vite fait de considérer que il faut plutôt que ces constructions fictives, telles qu'on les définit de cette façon-là, à cela, il vaut mieux préférer les faits, la réalité objective, la réalité politique, par exemple. Et voilà. Et faire, plutôt que des fictions, des livres qui seraient plutôt de l'ordre du document ou du reportage ou de la transcription soi-disant objective de réalité qu'on aurait vécue. Voilà. Comme si, justement, la question n'était pas celle des moyens dont on dispose pour produire les représentations en question. Voilà.
Peut-être une dernière question, Éric Clémence. Oui, moi je vous pose, avant d'ouvrir la parole à la salle, une question sur l'environnement, sur le contexte, sur ce qui vous semble avoir bougé depuis ces 50 ans, moment où vous écriviez ce texte qui vient d'être lu par Christian Prigent, à la fois s'agissant du statut des artistes, de ce narcissisme dont il parlait, à la fois s'agissant de ce contexte politique qui a changé, et parce que on a l'impression d'une grande constance de votre part à tous les deux, une grande fidélité, vous disiez, à au-delà de l'amitié, à un certain rapport à la littérature, au langage. Non pas que ça n'avait pas évolué, mais j'imagine que tout ça a évolué dans le temps. Mais en revanche, ce qui a beaucoup plus changé, c'est probablement le contexte. Comment vous percevez ça?
Normalement, la réponse, c'est la régression, bien entendu. Mais je ne pense pas. Je pense que j'ai écrit un texte il n'y a pas longtemps sur les gilets jaunes. Et en même temps, je lis aujourd'hui que tel gilet jaune est un complotiste, etc. Bien entendu. Hein, donc, je pense que je reste optimiste parce que je pense que les surgissements sont toujours là. Et donc, les surgissements, c'est-à-dire justement les moments où on ne se satisfait pas de la communication ambiante. On ne se satisfait pas de l'usure utile de la quotidienneté. Et donc, ces moments-là, je pense qu'ils sont, c'est peut-être optimiste de ma part, mais ils sont ancrés dans les équivoques de la liberté. Je dis les équivoques parce que, bien entendu, la question de la liberté, comme on sait, c'est pas une question du bien. Ça ne se confond pas avec la vérité ou le bien. la prise de liberté, c'est toujours un risque et de faste ou de néfaste. On l'oublie souvent. Schelling, un philosophe du 19e, disait « la liberté est pour le bien et le mal ». Évidemment que la liberté... Sinon, il n'y a pas de liberté. Si, on peut faire, si la liberté n'existe que pour le bien, eh ben, c'est qu'il n'y a pas de liberté. Donc la liberté est pour le bien et le mal. Donc c'est, dans ce... C'est, je pense, c'est, cette question de la liberté qui nous vient du langage, encore une fois, d'où prend la liberté, sinon des possibilités que nous avons d'ouvrir, de rouvrir les possibilités avec le langage. Et donc de découvrir des alternatives dans le monde. Et cette liberté-là, bien entendu, elle est un risque. Et donc elle peut mener certains gilets jaunes à embrayer le pas à des discours fascisants, complotistes, tout ce qu'on veut, mais à d'autres aussi à découvrir ce que c'est que la parole égale qui, dans les ronds-points, esquisse une communauté horizontale qui découvre des intérêts communs et des désirs communs et commence à s'exprimer et à se rassembler, à former des micro-assemblées qui, bien entendu, s'épuisent et disparaissent, mais qui ont donné une expérience qui, pour ceux qui l'ont vécu de la façon que je viens de dire, est inégalable et est ancrée. Et donc, de même que nous avons connu mai 68 qui nous a bouleversés, évidemment, je pense que des tas d'expériences, bon, je prends les gilets jaunes comme exemple spectaculaire, mais il y a plein d'assemblées aujourd'hui qui se créent et qui se forment de façon comme ça autonome dans la plus grande liberté, avec les équivoques de la liberté, encore une fois. Mais je pense que ça, c'est le nouveau contexte, mais ce n'est pas un nouveau contexte. Je pense que, bien sûr, de façon globale, il y a une plus grande emprise de la communication. On sait très bien les réseaux sociaux. Mais je connais aussi des réseaux sociaux qui sont des producteurs de pensées extraordinaires, aussi curieux que ce soit. Jean-Yves Pranchère, qui est un de mes amis, mais qui est professeur de droit, de philosophie politique à l'Université de Bruxelles, et qui est français d'ailleurs, et qui a écrit un grand livre avec Justine Lacroix aux éditions du Seuil sur les droits humains.
Oui.
Ah ben oui, mais il passe son temps sur les réseaux sociaux à réfuter de façon très sérieuse, donc sur Facebook, hein, les aberrations qui peuvent apparaître, et à répondre de façon longue. Je ne sais pas comment il fait, je l'admire en même temps, de façon argumentée, longue et humaine en même temps, en montrant comment le dérapage a lieu chez l'autre quand il se contente de l'insulte dans la soi-disant discussion, etc. Donc je pense que tout ça, ça continue. Et il n'y a pas de raison de croire que et notre infirmité du langage et notre liberté dans le langage ne nous laissent sans ressources. Au contraire, la ressource est toujours là.
Merci. Il y a un micro qui peut circuler, donc.
Qui peut, qui ne doit pas, mais il peut. Question,
voilà.
Bonsoir. Le langage, c'est très vaste. Ça ne se limite pas à la littérature, ou ça ne se limite pas à la poésie, ou à la philosophie. Donc, en fait, j'ai eu l'impression que vous rétrécissiez, enfin c'est de bonne guerre, c'est normal, puisque vous êtes des poètes. Et pour moi, tous les types de langage sont utiles. D'ailleurs, la langue de bois est très utile, parce qu'on s'aperçoit ce que ça peut donner. La pauvreté du langage, soit politique, soit économique, ou... Et sinon, il y a quelque chose. Pouvez-vous expliquer, en fait, dans le poème que Christian Prigent vient de lire, en quoi il y a un lien entre poésie et philosophie ? Parce qu'en fait, il y a deux parties. En fait, c'était le même poème. Hein. Première partie avec des onomatopées, des façons de jouer avec des syllabes, etc. Et des fragments de mots. Et la deuxième partie, une espèce de... Comment dire il y a le thème de l'avare avec le rapport à l'argent, etc. Donc, voilà. Donc, ma question, c'était en fait le lien entre les deux parties. Et puis, quelque chose, moi, auquel je tiens, c'est le côté esthétique de la poésie. Le côté, parce que ça aussi, c'est important, pas simplement la déconstruction des mots, etc., le jeu avec les lettres, les syllabes, les... Voilà. Enfin, il y a beaucoup de choses. Hein. Désolé.
Non, mais vous avez raison. Enfin, j'embraye sur tout ce que vous dites. Je veux dire, d'abord, pour le début de ce que vous disiez à propos de tous les langages, le langage des échanges entre ces gilets jaunes qui se sont rassemblés au rond-point, je prends certains d'entre eux, je ne dis pas tous, hein, mais tout de même, et qui alors avaient des intérêts tout à fait différents, avaient des désirs et des façons de vivre tout à fait différentes, mais qui ont découvert en bavardant au fil des jours, puisqu'ils restaient là. N'oubliez pas que ça a duré des semaines et qu'il y en a qui restaient autour des ronds-points pendant des semaines. Et d'ailleurs, comme par hasard, on a démantelé tous ces ronds-points. Hein, ils avaient fini par mettre des cabanes, ils avaient organisé de la nourriture à distribuer, etc. Donc tout ça, c'est du langage. Hein. On est bien d'accord que la nourriture, c'est du langage. On ne mange pas de la viande crue qu'on mord en mordant sur des animaux. Hein. On la découpe, on la cuit, on la sauce, etc. Bon, idem pour les... Enfin, pour tout. Donc on voit, et tout ça, cette expérience-là, ils l'ont revécue. Et donc, ils ont rejoué tout leur langage pour se découvrir des affinités et des différences, mais qu'ils ont appris à je ne vais pas dire à gérer, justement, à vivre. Avec toutes les incertitudes et tout ce qu'on leur a reproché, vous êtes mal organisés, etc. Ils ont tout de même fait une assemblée des assemblées, hein, faut pas l'oublier. Ça n'a pas été que des dispersions complètes. Hein. Et il y a eu des revendications très précises qui ont été... donc voilà, ça c'est une chose. Alors sur ce que vous disiez après, sur le texte en question, je l'ai écrit après avoir vu la pièce de Gelderod, « Magie rouge », qui est une histoire d'avare, dont j'ai complètement oublié l'histoire. Mais enfin, elle m'avait frappé, mais par ailleurs, j'avais mes premières lectures de Nietzsche, de Bataille, de Mallarmé, bon, voilà, j'avais même ces lectures-là qui... Et donc, tout d'un coup, ça m'a paru congruent, vous voyez. C'est un peu comme s'il y avait deux gilets jaunes, hein, un gilet jaune... purement poète et un gilet jaune un peu philosophe, qui se sont dit, mais on parle de la même chose, en fait. Parce que vous parlez de l'esthétique. Bon, je ne sais pas si... Qu'est-ce que c'est l'esthétique ? L'esthétique, c'est l'esthésie, c'est la perception. Et donc, nous vous appelons esthétique, non pas ce qui est beau selon des canons qui seraient classiques et je ne sais pas tout quoi. Non, nous appelons esthétique ce qui renouvelle notre perception, ce qui fait que notre perception se soulève. Esthétique, ça vient du mot grec aesthésis, qui veut dire justement perception. Et donc, est-ce que la première partie renouvelle la perception que j'avais de la pièce et du langage et que vous avez à avoir en écoutant la façon assez extraordinaire dont Christian l'a lu? Je ne sais pas, mais je pense, moi. Moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'il en a donné une force esthétique. C'est pas qu'un démantèlement de mots. Il y a des signifiés qui traversent ces signifiants. Et ces signifiés sont effectivement repris d'une façon plus discursive, tout de même très elliptique, hein, dans la suite. Et donc, je pense que l'ensemble fait énigme, quoi, après tout. Christian dit souvent, les tableaux qu'on aime bien, c'est les tableaux qui font énigme. Ben oui, les poèmes qu'on aime bien, c'est aussi les poèmes qui font énigme. Pour faire énigme, il ne faut pas dire n'importe quoi. Hein. Si je fais de la pure sonorité, ça ne fait pas énigme. Hein. Mais voilà. Est-ce que ça fait énigme? Est-ce que ça ouvre des possibles... et que ça renouvelle de par là notre perception? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je trouve là.
Est-ce qu'il y a encore peut-être une dernière question? Oui.
Bonjour. Et quel est l'apport des langues étrangères, par exemple, dans la poésie francophone? Est-ce que vous l'avez pensé ou vous y avez pensé, tout simplement?
Je ne sais pas ce que vous entendez par... Est-ce que vous les avez pensés? Éric et moi avons publié pendant pas mal d'années une revue dont on a parlé à divers moments ce soir. L'un des aspects du programme de cette revue, c'était de publier des traductions d'auteurs étrangers. Voilà. Hein, donc c'était une chose... j'allais dire d'une manière évidente, présente dans le projet d'une revue qui essayait d'être à l'écoute de ce qui, à l'époque où elle se publiait, apparaissait. Et parmi ce qui pouvait apparaître, eh bien, c'était des traductions d'auteurs qui n'avaient pas été traduits, pas forcément des auteurs récents, mais voilà. Voilà, bon, ça c'est un peu l'anecdote factuelle. Si vous voulez, la question pour la poésie, selon moi, enfin la question, l'une des questions que je me pose, moi, essayant de faire une poésie qui soit pas trop insignifiante, la question, c'est la mobilisation du plus grand nombre de possibles dont le langage est capable. Voilà. Dont la langue est capable. Bon. La langue, bien évidemment, est d'abord capable de produire des énoncés qui sont chargés de sens. Voilà. C'est la fonction de la langue telle que je suis en train de m'en servir en ce moment, hein, essayant de dire les choses les plus clairement possible, tout en sachant que il y a toujours un au-delà à la clarté. Hein, voilà, bon. Mais la langue, c'est aussi un matériau sonore. C'est-à-dire, la langue, ça fait du bruit. On l'entend quand elle se propage. Et même dans le silence de la lecture d'un texte sur la page, cette sonorité, elle est là, au moins subliminale, toujours prête à éliminer, qui donne à la langue une caractéristique qui est d'un type qu'on dira sensoriel, par exemple. Hein, et dans le poème d'Éric que j'essayais de lire tout à l'heure, cet aspect-là est important. Il est plus important, quand il est lu oralement, mais même si je me contente de le lire en silence sur le livre, il est là. Il est là en tant que constitutif de l'effet que ce texte est censé produire. Voilà. Bon, une langue, c'est aussi une façon d'articuler les mots les uns par rapport aux autres par des unités métriques. Ça ne fait pas le même effet de mettre successivement un mot de 6 syllabes et un mot de 2 syllabes, ou un mot de 6 syllabes et un autre mot de 6 syllabes. Ça, l'histoire de la poésie métrique, l'histoire de la prosodie, nous le rappelle constamment. Bon, bref, je ne vais pas continuer sur ce terrain. Mais ça veut dire qu'il y a une matérialité spécifique à la langue et que le traitement de cette matérialité spécifique à la langue donne corps à la langue. Hein, fait que la langue prend corps. Voilà. Donc il y a ça. Mais il y a aussi le fait qu'une langue, c'est une mémoire. C'est-à-dire, dès que vous apportez un mot, le mot souris, par exemple, dont on parlait au début de cette séance, vous apportez avec ce mot l'histoire entière qui est sous-jacente à ce mot. Comment il a traversé à la fois l'histoire de la langue elle-même, l'histoire de la littérature, l'histoire des usages techniques du lexique, par exemple. Voilà. Bon, il y a cette mémoire de la langue. Et puis, une langue, c'est aussi les contiguïtés, les rapports qu'elle entretient avec les langues qui lui sont coexistantes. Voilà. Et quand j'entends les langues qui lui sont coexistantes, ça veut dire les langues qui lui sont à l'intérieur de son propre domaine coexistante, c'est-à-dire ce qu'on appelle les niveaux de langue. Voilà, une langue, c'est des argots techniques, c'est des argots de pègre, c'est des argots de banlieue. Enfin, c'est la totalité, l'immensité de la créativité argotique qui est sans arrêt une création de figure. Et puis... Les langues aussi, c'est à côté d'elles le domaine des langues étrangères qui lui sont contiguës et qui viennent, comment dire, qui viennent à elle, à cette langue, soit par la mémoire de la bibliothèque, parce que vous avez lu en latin Lucrèce, en anglais Yeats, en allemand, je ne sais pas quoi, moi, Schiller ou Hölderlin, et que vous avez dans la mémoire, comment dire, le souvenir au moins sonore que vous avez lu ça. Et ce « ça » que vous avez lu, il est présent dans le temps de votre propre travail. Il revient comme langue familière dans l'étrangeté ou l'inverse. Voilà.
Bien, ben il me reste en tout cas à vous remercier infiniment, Éric Clemens, Christian Prigent et Sylvain Bourmeau d'avoir participé à cette rencontre. Je rappelle que Sylvain Bourmeau est directeur du quotidien en ligne AOC, et producteur aussi à France Culture et professeur associé à l'École des hautes études en sciences sociales. Alors vous avez démarré dans un enthousiasme très fort, très très vite la séance tout à l'heure, donc je n'ai pas pu faire la petite introduction, mais c'est très bien parce que du coup je vais profiter de 30 secondes de conclusion qui vient vraiment au bon moment, simplement pour vous dire que cette séance... Elle fait partie d'un cycle de rencontres au Centre Wallonie-Bruxelles qui s'appelle donc Belgian Theory, qui a été fondé il y a quelques mois par Laurent de Sutter, notre compatriote, et qui a donc à charge d'explorer la pensée belge contemporaine, mais pas simplement belge, on l'a vu dès ce soir, avec aussi évidemment des invités, notamment français, et que la première des trois séances de ce soir fait particulièrement... s'inscrit dans un cycle que nous avons appelé « Fiction et vérité » autour donc, du livre d'Éric Clemens, « Le fictionnel et le fictif ». C'est un cycle que nous avons organisé, que nous organisons avec la BPI du Centre Pompidou. Je remercie particulièrement Sébastien Godelus qui est avec nous ce soir. Vous avez vu que ces problématiques du livre d'Éric Clemens autour de la fiction eh bien, nous font revisiter les couples fiction, vérité, imagination réelle, raison, langage et monde, parole et acte, mots et images. Dans le domaine du langage, on l'a vu plus particulièrement ce soir, mais il y a aussi des questions thématiques, notamment politiques, très importantes, et c'est pourquoi qu'on abordera encore deux séances autour de ce livre auquel je vous invite d'ores et déjà. Si vous avez, on se permettra de vous envoyer ces informations sur ces séances. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez laisser vos coordonnées, on le fera avec grand plaisir. Il y aura une séance au printemps ici au Centre Wallonie-Bruxelles, et puis on aura le plaisir, dans le deuxième semestre de l'année 2022, d'être à la BPI pour la dernière séance autour de ce livre d'Éric. Et puis, je voudrais faire une... On va se retrouver autour d'un verre convivial pour encore poser vos questions de manière informelle aux intervenants et faire dédicacer leurs livres. On va se retrouver dans le foyer parmi les livres un étage plus haut. Et puis, je voudrais faire une dernière petite annonce pour un événement, justement encore dans le cadre de ce cycle Belgian Theory. C'est une soirée un petit peu spéciale et atypique qui aura lieu le 17 décembre, toujours au Centre Wallonie-Bruxelles. Et il y aura une carte blanche donnée à la revue Solde, qui est une revue un peu mythique, qui a eu son heure de gloire dans les années 80, qui a de nouveau renaît de ses belles... de ces belles pages depuis quelques années, et Marc Borgers proposera un débat, tout un programme « Comment faire simple quand on peut faire compliqué » avec Emmanuel Cochia et Laurence Rassel. Et puis, on est complètement dans l'interdisciplinarité et dans les langages, voilà encore un autre type de langage, puisque la soirée se terminera le 17 décembre par un concert de hard rock du groupe La Muerte. Donc voilà, ce sera encore une autre manière de penser et de un autre langage que nous partagerons ensemble. Voilà, je vous remercie encore infiniment de votre participation à tous et toutes, et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Au revoir.